Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Alors bonjour Nicolas, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast. Nicolas Vargas, formateur indépendant en art oratoire, peux-tu te présenter s'il te plaît à nos auditeurs, Nicolas ?
Bonjour David, merci pour l'invitation. Alors si je dois me présenter, je dirais que j'ai commencé, si on est sur le volant un peu professionnel, moi j'ai eu plusieurs vies professionnelles et j'ai commencé par de la radio, figure-toi. Donc c'est pour ça que c'est chouette aussi de se retrouver devant ce micro. J'ai fait du journalisme sportif, moi, pendant plusieurs années. J'ai travaillé à ça et ça me plaisait beaucoup d'aller me balader dans les salles, sur les terrains, d'enregistrer, d'interviewer, de rencontrer les gens. C'était une vraie passion. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, c'était vraiment ce que j'aimais entendre. Tu vois, la radio pour suivre les compétitions sportives, les matchs de foot, les matchs de boxe même. La boxe se commentait à la radio. C'était assez incroyable. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, la vie a fait qu'il y a eu des rencontres, d'autres rencontres qui se sont moins faites, d'autres qui se sont faites davantage. Et puis, j'ai bifurqué vers les métiers de l'enseignement. Donc, après un parcours universitaire dans les langues. D'abord dans la linguistique et puis ensuite dans les langues. Et puis ensuite, métiers de l'enseignement, donc instit, enfin, prof des écoles. Et puis, prof des écoles spécialisées. Donc avec des publics un peu en marge, des publics qu'on appelle des SECPA, des classes de SECPA en collège. Et puis des expériences aussi au niveau de mineurs en prison. Donc là aussi des espèces de publics un peu particuliers. Et puis ensuite une démission de l'éducation nationale parce que je ne m'y retrouvais pas. Et donc là, une nouvelle aventure s'est ouverte. J'écrivais moi déjà depuis un petit moment, j'ai écrit pas mal de théâtre. Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'écriture. Après un passage, maintenant que j'y repense aussi, une formation dans le massage. Voilà. Et le massage, c'était finalement pétrir des peaux et des corps, là où on va pétrir des mots et des idées dans la littérature, dans le cinéma. Et donc, à partir de là, quand j'ai démissionné de l'éducation nationale, un peu comme si les vannes s'étaient ouvertes aussi. Donc, de la musique, des ateliers d'écriture. Et puis l'art oratoire qui est arrivé par le biais de rencontres, là aussi. Une rencontre avec Paul, que tu connais par ailleurs.
On salue.
Voilà, et puis je me suis formé aussi sur ce terrain-là. Et puis finalement, ça m'a bien plu de me dire, tiens, comment on peut travailler cette expression-là ? Et donc maintenant, depuis un certain nombre d'années, j'alterne entre des formations, des cours en art oratoire, mais aussi en scénario, en écriture scénaristique à l'université, par exemple, en écriture créative. Là, je fais aussi des cours de lecture d'images, de concept images, de choses comme ça. J'accompagne aussi des étudiants dans la façon qu'ils vont avoir ensuite de prendre confiance pour présenter leurs travaux de fin d'études, tu vois, dans des écoles comme à l'ECV, par exemple, qui sont des écoles de com visuel. Donc, c'est très riche et c'est très intéressant. Ouais.
Je me souviens, dans une des formations, une fois tu parlais de mototème, trouver son mototème, c'est-à-dire le trait d'union entre les expériences d'un CV. Quel serait ton mototème ou le dénominateur commun à tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces aventures?
Je pense que s'il y a un mot commun, c'est sans doute le mot de transmission. C'est-à-dire que ce soit par la radio, que ce soit par la musique, parce que je fais de la musique aussi, que ce soit surtout par l'enseignement, mais de manière générale par le fait d'avoir envie d'être cette courroie de transmission, de facilitation, et ben c'est sans doute le mot qui me qualifierait le mieux, en tous les cas que je prends volontiers comme mototème, celui de transmission.
Ouais. Alors il y a plein de choses qui m'intriguent dans ton parcours, Nicolas. Comment t'as démarré à la radio ?
La radio, ça a été, j'étais au lycée, et c'était le moment où on se demandait ce qu'on allait faire de nos vies, de nos années futures post-lycée. Et puis il y avait un forum là, et il y avait un journaliste qui était là pour une radio. Et je suis allé lui poser des questions, et puis ce gars-là m'a dit si ça vous intéresse, passez mercredi à la station et on va voir ce qu'on fait. Donc j'y suis allé. Et là, je me souviendrai toujours, hein, il a tiré le tiroir, il m'a donné un magnétophone, il m'a dit dans une heure, revenez avec un sujet, ce que vous voulez, mais revenez avec ça. Il se trouve qu'il y avait c'était dans la ville de Bayonne, il y avait la foire au jambon à ce moment-là. Donc je suis allé faire une espèce de micro-trottoir sans trop savoir. Et puis quand je suis revenu une heure après, tout tremblotant, sachant pas du tout, j'avais pas fait de montage ni rien, c'était vraiment brut comme ça. Il a pris le petit appareil, il l'a rangé dans son bureau. Et en fait, il voulait simplement tester si j'avais envie et si j'étais capable d'aller vers les autres pour faire ça. Il m'a dit, samedi matin, 8h, tu viens avec moi. Et c'était un ancien d'Europe 1, c'était un journaliste sportif assez connu. Et donc, il m'a pris un peu sous son aile. Moi, j'avais 17 ans. Et pendant 2-3 ans, j'ai travaillé avec lui, tous les week-ends d'abord, et puis pendant les vacances.
Et forcément, une question de tarot, est-ce qu'on peut dire son nom?
Ouais, c'était Christian Bibal.
Christian Bibal, alors ouais. Ça ne me dit rien, mais je regarderai sur Internet. Christian Bibal, très bien. Et donc, c'est lui qui t'a un petit peu mis le pied à l'étrier sur la radio et sur le journalisme sportif?
Oui, sur ça, et puis sur finalement la rencontre, le fait d'oser aussi aller vers les autres. Moi, je n'avais pas trop de mal à discuter avec les gens qui étaient dans mon entourage. En revanche, j'avais une immense timidité à aller jamais, si j'avais pas eu un micro et quelque chose qui me donnait l'occasion d'y aller, jamais je serais allé interviewer ou poser des questions à des gens que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'en avais envie. Et c'est là qu'on va faire sans doute le lien aussi avec l'art oratoire, parce que pour moi, cet outil-là, il est formidable là-dedans. C'est pas simplement pouvoir parler devant 150 personnes. Ça arrive pas à grand monde, finalement. Mais cette faculté à aller s'intéresser à l'autre, à aller l'écouter, ce que tu fais là quand tu interviews, tu es bien obligé d'être absolument dans le moment, dans l'instant. Il y a ce qu'on prépare et puis il y a aussi ce qui se passe. Et donc, il y a des connexions, là, je trouve, très fortes entre ce background-là qui m'a permis d'aller vers les autres et d'oser aussi parce que j'avais une mission finalement à accomplir et que c'était plus simplement ma personne, mais que c'était pour la radio qu'il fallait ramener du son, pour l'émission qu'il fallait absolument... Et ça, je trouve que ça permet de se grandir, ça.
Ouais, ce que m'évoque ton anecdote, Nicolas, c'est que les bonnes improvisations, en fait, naissent d'un mouvement. Il n'y a pas d'improvisation en prise de parole, au théâtre, en stand-up, en politique, dans les affaires, bref. Il n'y a pas d'improvisation sans un pas en avant au départ. C'est-à-dire que plus je vais me figer, considérer que je n'ai pas d'idée, que je ne suis pas créatif, que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, Peut-être que les gens qui nous écoutent se reconnaîtront parfois, on en a tous, des formes de discours de ce type. En fait, l'improvisation, ça naît d'un mouvement. C'est Sylvain Tesson qui disait une fois de marcher, Sylvain Tesson est grand écrivain, de marcher, d'avoir les pieds au contact du sol, pour moi, c'est comme une dynamo pour le cerveau. Ça me permet d'aligner un mot puis un autre. Et je trouve cette image, cette métaphore absolument sublime. Et ça m'évoque un autre exemple, c'est Gaëtan Roussel, le leader de Louise Attaque, qui disait « Moi, mes meilleurs tubes, je les ai écrits en marchant. » Et j'aime beaucoup ça, cette idée du mouvement, et je le constate toutes les semaines en improvisation théâtrale. Plus déjà je me fige corporellement, plus je vais figer ma pensée. « Non, non, moi, j'ai pas d'idée, surtout. » Et puis surtout, je vais m'excuser d'être là, d'exister, et je vais pas me lancer. J'ai trouvé des prétextes pour pas me lancer. Donc il faut parfois juste mettre ce petit pied-là, et puis allumer la machine, et puis effectivement se laisser guider par sa mission.
C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un grand débat par rapport à ça qui existe justement entre le marcheur et celui qui serait à sa table. Et c'est le débat entre Flaubert et Nietzsche. Flaubert n'a jamais pu travailler autrement qu'en ayant le cul vissé sur sa chaise, à son bureau, avec aucune sollicitation autre. Tu vois, l'espèce de pure pensée, de pure concentration pour accoucher de ses œuvres. Là où Nietzsche, au contraire, a toujours dit qu'il n'avait jamais eu aucune autre idée, un peu comme ce que tu disais pour Tesson, tu vois, qu'en se mettant en mouvement et qu'en marchant. Et je crois qu'on a parfois besoin des deux. Tu vois, je trouve que notamment sur ces questions d'art oratoire, quand on commence à être dans des idéologies ou dans des maisons de pensée, souvent on se ferme à des possibilités qui empruntent à tout, en fait. Moi, je vois ça comme quelque chose d'assez systémique. C'est-à-dire que, oui, parfois, c'est vraiment de me mettre en mouvement et de marcher et d'aller dans la forêt, etc. Et que là, je vais m'aérer le cerveau et trouver d'autres idées. D'autres fois, je vais avoir besoin, au contraire, de vraiment, vraiment me figer, me concentrer. Et je pense qu'on a besoin, en tous les cas, de savoir s'écouter, mais de cesser d'opposer, tu vois, corps et esprit.
Complètement.
Tu vois, je pense à une phrase qui m'a longtemps tourné dans la tête. Moi, j'ai été élevé avec cette notion-là de... ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Et pendant longtemps, elle s'imposait à moi, cette phrase, et je la trouvais assez juste. Et il y a peu de temps qu'en fait je la rejette, mais totalement. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait d'abord le primat de la pensée. Voilà, fais bien tout ce qu'il y a à penser, et ensuite, à ce moment-là, on pourra exprimer de façon claire. Et je trouve que c'est faux, je trouve que ça marche dans les deux sens. Parfois, pendant que je suis en train de te parler, ma pensée continue à être active, évidemment, et d'autres fois, c'est le fait d'entendre les mots que je suis en train de prononcer qui me permettent de penser autrement. Donc, je pense que c'est assez polymorphe cette chose-là.
C'est assez polymorphe et à l'image aussi d'orateurs ou d'oratrices qui prendraient la décision au moment d'une conférence, d'un pitch, d'une présentation, à un moment donné de s'ancrer, puis entre deux ancrages de se déplacer, d'utiliser l'espace. Et donc dans l'art oratoire, on a aussi cette double articulation. J'ai souvent cette question-là, tu dois avoir la même, Nicolas, on fait le même métier, c'est... Est-ce qu'on peut bouger ? Moi, j'ai besoin de bouger, je suis nerveux à l'oral. Qu'est-ce que je dois faire de ma peau, de ma posture ? Est-ce que j'ai le droit de bouger ? Et donc, c'est trouver ce juste milieu entre distinguer le mouvement parasite sur soi du déplacement justifié dans le regard du public ou pour amorcer une transition, un nouveau chapitre d'une conférence, par exemple. Donc, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça, avec cette double articulation. Et je connaissais pas ce débat Flaubert-Nietzsche. Je trouve ça assez fascinant. D'ailleurs, Flaubert, on parlait, je crois que son bureau, il l'appelait le gueuloir, c'est ça ?
Alors ça, le gueuloir, c'est la façon ensuite... quand il avait fini d'écrire, tu vois, où il passait ses textes au gueuloir. Et ça, c'est drôlement intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il ne validait son écrit qu'après l'avoir passé dans son corps. Et il disait son texte très, 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 très fort. de manière à voir ce qui tenait et ce qui tenait pas. Tu sais, on a tous eu cette expérience d'être très satisfait de ce qu'on avait écrit, un texte, tu vois. Et puis, tu le prends et tu le lis et tu dis, ah mais non, en fait, ça va pas. Oh là, il y a une répétition. Oui. Il y a parfois des répétitions qu'on ne voit pas avec nos yeux ou avec nos cerveaux. Et par contre, qu'on entend immédiatement. On sent que le mot n'est pas juste parce que ça y est, on le passe dans la voix et dans son corps, on sent que c'est pas vrai. Tu vois, donc il y a un double processus de validation. Et même lui qui restait le cul sur sa chaise, comme je disais tout à l'heure, eh ben, le moment où il se levait, c'était quand même avant la validation finale de son œuvre. Donc tu vois, il y avait besoin quand même aussi de cette dimension vocale pour se dire, bon ben, ouais, ok, je valide ou pas telle phrase, tel chapitre.
C'est une anecdote qui est juste fascinante et en fait je te relance sur là-dessus parce que je me souviens d'un de tes conseils qui était de d'écrire en fait à l'oral, de préparer un pitch, une prise de parole à l'oral notamment, pas que évidemment, je peux récolter des mots-clés sur une fiche, sur un post-it, mais en parallèle d'identifier avec son enregistreur vocal, avec sa caméra, ce qui sonne ou ce qui sonne pas. Autrement dit pour Flaubert, ce qui tient ou ce qui tient pas. Et je trouve ça assez fascinant. Effectivement, il y a des termes comme les adverbes à l'écrit. Alors Stephen King lui dit, si vous voulez devenir bon écrivain, supprimez les adverbes. Et c'est peut-être le cas aussi. C'est peut-être le cas aussi à l'oral. On peut avoir des fois des termes parasites qui sonnent plus, qui sont très lourdeaux, qui sont indigestes en fait. Je compare souvent ça à une pâtisserie en fait. S'il y a trop de sucre, ça va devenir indigeste pour le public. C'est génial ces anecdotes-là, ça me fait aussi penser évidemment à l'écrivain Céline, Le Voyage au bout de la nuit, qui a voulu mettre de la parole dans l'écriture.
Ben, en tous les cas, ce qui est bien évident, c'est qu'on s'est parlé avant de s'écrire. Mais là encore, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'opposition corps-cerveau, il y a cette opposition fréquente entre le versant auteur, le versant acteur, entre l'écrit, l'oral. Et là aussi, on a tout un tas de phrases toutes faites là-dessus, tu vois, comme quoi les paroles s'envolent, les écrits restent. Bah, moi, je ne suis pas tout à fait, et tout le temps, en tous les cas, d'accord avec ça. Quelqu'un, je ne sais pas, un membre proche, tu vois, très proche de toi, qui va te regarder dans les yeux et qui va te dire « mais tu peux t'en aller, je ne t'aime plus », ben, c'est pas écrit, hein, mais je vais m'en rappeler toute ma vie. Alors que peut-être une petite note qu'il m'aurait écrite, tout ça. Donc je veux dire, il n'y a rien de figé là-dedans aussi.
Ça me fait penser à la force des images par la parole, en fait. Ce que tu décris, en fait, c'est le souvenir, à mon avis, part d'une image forte qu'on garde en tête. Une image de son émotion sur le moment, de cette tristesse, de cette déception qui nous a peut-être traversé le dos à ce moment-là, quand on a entendu ces paroles-là, et on associe ça à des images fortes. Ce qui me permet de faire une transition toute trouvée avec tes ateliers d'écriture, avec ton activité de scénariste. J'imagine que tu fais travailler aussi beaucoup autour des images, parce que ça a l'air d'être un leitmotiv chez toi, l'image, la photo.
Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que dans l'écriture scénaristique, en tous les cas, c'est une écriture, moi, qui m'a beaucoup aidé à travailler autrement, parce que au départ, j'ai une écriture, ben, on va dire, plus littéraire. Mais finalement, j'ai travaillé le théâtre, où là, c'est une écriture qui est destinée à être prononcée, dite. Donc, c'est une écriture orale, c'est du dialogue. On va enlever, il y a quelques didascalies, quelques indications comme ça. Mais sinon, c'est accepter d'écrire, on va dire, à l'os, pour qu'ensuite, le comédien ou la comédienne puisse s'emparer de l'interprétation. Donc, dans les stichomyties, par exemple, quand on a des toutes petites répliques très, très courtes, si tu lis ça comme ça, c'est pas forcément intéressant. Et pourtant, ensuite, l'incarnation peut rendre quatre mots, tu vois, genre, tu vas écrire « ça va ?»« Non. » »« T'es sûr ?»« Non, je te dis. » »« Ah bon ?»« Oui. » Si j'écris juste ça comme ça, l'auteur que je suis n'est pas satisfait, tu vois, c'est pas intéressant, il y a trois fois rien. En revanche, sur une scène de théâtre, on peut en faire un moment incroyable. Donc, il y a ça dans l'écriture théâtrale, une écriture orale qui permet de travailler ça. Et dans l'écriture scénaristique, ce qu'il y a de génial, c'est que tu dois écrire de manière à ce que la caméra comprenne exactement tout ce que tu dis. Donc il ne peut pas y avoir là de fioriture, c'est-à-dire que si tu dis un homme triste s'en va le cœur en peine, bah ça la caméra elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Donc tu vas être obligé d'écrire plutôt « Une larme coule sur la joue de l'homme ». Et ça, la caméra, elle peut voir ce que c'est, elle peut le filmer. Donc ça permet d'écrire avec des styles, avec une concision, avec quelque chose de très différent de ce que tu vas retrouver dans l'écriture poétique, qui m'arrive de pratiquer aussi, ou dans l'écriture d'une nouvelle ou d'un roman, où là, il va être aussi question de style. C'est aussi le style qui va faire l'écrit. C'est pas tellement le sujet, finalement.
Qu'est-ce qui t'a marqué en termes de style ? Tu as parlé de littérature, de poésie. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont bouleversé ?
Bien sûr, bah, tu t'évoquais Céline tout à l'heure. Moi, ça reste un maître absolu pour moi, justement, dans cette façon qu'il a de nous faire lire, où tout d'un coup, on entend tout. On entend l'émanation des pensées, mais on entend les paroles, mais on entend le bruit qu'il y a tout autour. C'est absolument prodigieux, ça. Et ça, le miracle de la lecture et de l'écriture, c'est quelque chose dont je ne me suis et je ne me remettrai jamais. C'est-à-dire que lire des signes complètement abstraits, quand on y pense, enfin, des jambages, des choses comme ça, abstraits, et arriver à ressentir de l'émotion véritablement dans son corps, je trouve ça incroyable. Donc après, c'est évidemment une question de style. Après, moi, je me suis beaucoup, beaucoup nourri au départ chez les auteurs russes. Je les ai peut-être lus un peu tôt, d'ailleurs. Mais ça m'a beaucoup plu, ces espèces de grandes, grandes sagas, ce que j'ai retrouvé après dans des séries, tu vois, par exemple, au niveau scénaristique, sur le fait que c'est le temps, dans le feuilleton, dans la série, de s'étirer, de prendre le temps d'aller creuser dans les psychologies des personnages, dans les arcs dramaturgiques qui pouvaient être très, très longs. Après, j'ai été très nourri à la littérature nord-américaine aussi.
Donc, et d'ailleurs, ça fait sens parce que c'est une littérature. Je la connais pas très bien, mais j'ai le sentiment que c'est une littérature qui est très oralisante aussi. Si on pense à Bret Easton Ellis, à Jonathan Franzen, c'est une écriture de l'oral.
Ouais, complètement. John Fante, des gens comme ça, mais même Steinbeck, Dos Passos, Hemingway. Enfin, il y en a évidemment des centaines. Ils ont à la fois ce sens de la concision, je trouve, et le côté aussi tout à fait épique. C'est comme s'ils avaient réuni les deux, hein, les grands paysages, les grandes aventures. Si on pense aussi à Jack London, des gens comme ça, c'est évident qu'ils arrivent à faire les deux. Mmh. Donc ça, moi, ça me passionne. Ouais.
Je trouve que l'écriture permet... Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'à un moment donné, il faut se poser à la table d'écriture si on a besoin de préparer une prise de parole percutante. Et je trouve que l'écriture permet ça, notamment de travailler sur les images, sur les métaphores, sur les analogies. Et c'est peut-être l'un des outils de persuasion que je trouve un des outils les plus efficaces qui soit. C'est de générer en fait un film mental dans l'esprit du public quand je prends la parole. Si je te décris par exemple le jour où j'ai décidé de faire le métier que je fais actuellement, si je décris à mon public le jour où j'ai rencontré mon associé actuel et qui m'a mis sur la voie de mon projet, ça permet en fait de rendre mon public beaucoup plus actif. Et je trouve que c'est une vraie connerie d'avoir peut-être à l'école cloisonné pendant longtemps, et je pense que c'est de moins en moins le cas, et on salue l'effort de l'éducation nationale en ce sens, mais d'avoir cloisonné autant l'oral et l'écrit, d'avoir fait un petit peu de l'oral un succès d'année de l'écrit en fait. C'est le sentiment que j'ai eu, moi.
Oui, il y avait ce parent noble qui était l'écriture. Ouais. Et ensuite, l'oral, mais on a connu ces débats avec l'écriture noble, le roman ou la poésie, et puis la bande dessinée à côté, tu vois, qui aurait été un art mineur. Toujours ce côté d'art majeur, d'art mineur, l'écrit supérieur à l'oral, etc. Alors que je pense vraiment que les deux nourrices sont absolument entrelacées. Et je repense aussi à deux choses. La phrase de Soulages, qui dit ce que je fais m'apprend ce que je cherche. Donc c'est aussi dans le fait, tu parlais de mouvement plutôt dans la discussion, je crois que c'est exactement ça, c'est aussi de faire et parler, c'est vraiment agir en direct aussi, en spontanéité. Donc ça peut, c'est pas la forme et le fond, la forme, les deux sont entrelacés, je pense.
Et je crois que ça répond aussi au mythe de la confiance en soi. Nicolas, David, comment je fais pour avoir plus confiance en moi? Je dis souvent, c'est pas un interrupteur. Qu'un lundi matin, vous allez décider d'allumer en vous répétant trois mantras dans la glace, je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus beau. Ça marche pas comme ça, je dis souvent, et tu n'hésites pas à me contredire ou à compléter si c'était pas en phase, mais j'ai le sentiment que la confiance en soi, en tout cas à l'oral, face à des inconnus, naît à mon avis de deux choses, de la technique, c'est pas nous qui irons dire le contraire, c'est quand même comme un sport ou un art, une série de techniques à assimiler, technique posturale, technique vocale, technique rhétorique, et puis surtout, de l'expérience, et ça rejoint cette idée de mouvement, c'est que si je saute pas du plongeoir, si je n'essaye pas, je vais rester un intellectuel bien assis et qui ira moins loin qu'un débile qui marche, quoi. Comme dirait l'adage. Donc j'ai le sentiment que la confiance en soi, pour rejoindre ce que tu dis, ça me fait penser à ça, c'est que ça naît aussi de ce mouvement-là. Si je reste figé sur ma chaise en me disant de toute façon c'est pas fait pour moi, je pourrais jamais développer de confiance en moi. C'est pas les seuls aspects évidemment, mais pour nos métiers, j'ai le sentiment qu'il s'agit un peu de ça.
Moi j'ai l'impression aussi que cette confiance, elle va se travailler aussi dans la curiosité, dans l'appétit qu'on a sur des choses qui peuvent sembler extérieures. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais plutôt d'esprit systémique. Je ne pense pas qu'on puisse travailler que la parole ou l'art oratoire. Moi, je fais tellement dans mes formations ou dans des cours, je travaille beaucoup, tu vois, par exemple, avec la cuisine, des métaphores ou des analogies sur la cuisine. Le fait de te dire, tiens, tu peux suivre une recette toute faite, et puis tu vas obtenir un résultat, un plat qui sera sympa à faire. Tu peux aussi un jour te dire, tiens, j'ouvre mon frigo, qu'est-ce que j'ai là-dedans et comment je vais créer avec ce qu'il y a là. Là encore, on va faire parfois une recette, parfois ouvrir un frigo. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi en se nourrissant dans des domaines qui sont extérieurs à ce que l'on fait qu'ensuite on connecte ces fameux points, hein. Le fait de faire de la cuisine, de faire de la marche en forêt, d'aller au cinéma, de s'intéresser à la peinture, enfin à tout ce qui est culturel, me semble-t-il, et puis à l'autre, fait que l'on va travailler encore mieux sa confiance, parce que finalement, on va se remplir de choses intéressantes qu'on pourra apporter, échanger avec l'autre. Donc ça me semble vraiment, souvent on me demande, tiens, mais comment je peux mieux me préparer, tu vois, à la prise de parole? Je dis, bah, fais tes devoirs dans le sens, va voir une expo, des fois, c'est parce que tu vas aller voir une expo que ça va te donner le déclic sur comment tu devrais peut-être démarrer ta conférence dans 2 jours. Parce que dans le tableau de un tel, tu vas trouver un élément là qui te dit, mais c'est ça, je vais commencer avec ce truc là la prochaine fois, tu vois. Donc je pense que ouais, la confiance, elle se travaille aussi en allant butiner vraiment partout, quoi.
Quel parallèle tu fais entre ton métier de scénariste et l'art du pitch par exemple et de la prise de parole en public? Parce qu'à mon avis, il y a des choses à dire là-dessus.
Il y a quelque chose de difficile là-dessus, parce que on a, je pense, souvent ce fantasme dans la prise de parole. En tous les cas, ce sont des choses qui me reviennent, notamment sur la parole qui fait mouche, la répartie, la réplique cinglante qu'on aurait, mais exactement au bon moment. Et cette question de timing, parce que si on prend une analogie, la sportive, je peux avoir la meilleure détente du monde, verticale, si je saute pas au bon moment quand le ballon arrive du corner, eh ben je toucherai pas la balle. Donc il y a cette idée-là. Et alors au cinéma ou dans le stand-up, on voit des gens là qui ont des répliques de folie, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a des punchliners. C'est un boulot, hein, punchliner. Aux États-Unis, on te fait venir pour écrire des punchlines dans certaines séries. Il y a le scénariste global et le mec qui vient, tu vois, le chirurgien de la, de la parole là, concise comme ça. Et nous, on voit ça, on se dit, bah, c'est normal. Et ça peut provoquer des frustrations en se disant, mais moi, je ne serai jamais à cette hauteur-là. Tu vois, il y a des monologues dont on se rappelle, alors, dans le théâtre, et puis aujourd'hui, plus près de nous, dans le cinéma ou dans les séries. Donc ça, ça a été travaillé, ça a été écrit, ça a été peaufiné, etc. Donc comment on essaie de se hisser à ça quand nous, on est tout d'un coup devant un public et qu'il faut gérer en plus ses émotions ? Parce que ça, c'est quelque chose quand même, le regard de l'autre. L'interprétation qu'on a de ce qu'on est en train de penser sur ce que l'on est en train de dire, donc il peut faire vriller aussi notre parole, et souvent de se dire « Ah merde, là j'ai raté le coche, j'aurais dû être plus précis, plus cinglant, plus ceci, plus cela ». Donc il y a deux exercices là, je pense que plus on s'entraîne finalement à entendre sa voix, à se dire, tiens, bah, je vais essayer d'être juste, ou je vais me mettre des contraintes formelles. Tiens, et si par exemple, j'essayais de ne répondre que par coup de 10 secondes ? Ou si, justement, j'ai du mal à développer mes réponses, eh ben, je vais m'obliger à tenir pendant une minute. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Et comment on va finir par trouver son propre style en étant en capacité comme ça de... Mais d'oser et d'accepter de tomber aussi, d'accepter de se rater. Parce qu'on voudrait atteindre directement le Graal, mais les gens dont on se dit, nous, qu'est-ce qu'ils sont forts, qu'est-ce qu'ils ont comme répartie ? Mais en fait, ils font ça depuis des dizaines d'années. Et ils font ça tous les jours. Et ils ont été validés en faisant ça. Donc, ce qui leur donne confiance aussi. Et en fait, je ne crois pas qu'on devienne comme ça du jour au lendemain orateur. C'est vraiment un long processus nourri, comme on l'a dit. Mais pour revenir et pour conclure sur ta question là, sur entre les punchlines dans les films, eh ben, on s'en nourrit si on veut, parce qu'on peut aussi décortiquer ça et se dire, tiens, je remarque que quand ce sont des images visuelles, ça marche. Bah tiens, je vais peut-être essayer de nourrir mon discours de plus d'analogies, de plus de comparaisons. Et on peut emprunter comme ça et s'améliorer au fur et à mesure.
Mmh. Et je pensais notamment sur la difficulté parfois de conclure. 9 personnes sur 10 ont tendance à conclure par « voilà » ou par « ben voilà, j'ai terminé ». Comment on conclut une prise de parole ? Et je trouve que les techniques scénaristiques peuvent être un précieux allié pour trouver des moyens de conclure. Je pense par exemple à cette ouverture, à cet art de faire du teasing jusqu'au bout du bout. J'ai développé tout un propos, j'ai développé ma conférence en 15, 30, 45 minutes, et au dernier moment, j'indique au public « Ah, c'est dommage, le temps qui m'était imparti est terminé, mais j'aurais aussi pu vous parler de ça, et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une future conférence ou formation, pour un peu comme une série, pour donner envie sur Netflix de cliquer sur l'épisode sûr. »
Bah là on entre dans la structure même, tu
c'est
vois,
ça,
dans
le, c'est ça, je pensais à ça.
Dans le schéma Kinnaire, par exemple, au niveau du conte, le schéma Kinnaire, c'est ce qui repose sur ces 5 piliers, tu vois, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le « Il était une fois, mais un jour, à cause de cela, jusqu'à ce que finalement, et depuis ce jour ». Voilà, là on a nos cinq piliers. Et toutes les histoires, depuis l'épopée de Gilgamesh jusqu'à la dernière série Netflix qu'on pourra voir, reposent en fait là-dessus. Mmh. Donc cette structure-là qui part d'un état d'équilibre, qui fait monter jusqu'à un climax et qui revient à une situation d'équilibre pour qu'on puisse de nouveau la détériorer et que quelque chose se passe... Ben, effectivement, ça fait partie des techniques de structure avec lesquelles on peut monter sur scène. Mmh. Et c'est ce qui, je trouve qu'effectivement, ces questions de technique, elles sont ultra importantes parce qu'elles nous permettent de gérer ce qui, par ailleurs, pourrait nous faire tomber. Mais tu sais, comme un tennisman du top 10 qui est en finale, je sais pas, de Wimbledon et qui rate 3 coups faciles et qui ne comprend pas, tu sais, pourquoi il les rate. Ben, j'ai remarqué, souvent, ils reviennent en fond de cours, et comme pour eux-mêmes, ils refont leur petit saut d'allègement, ils refont dans le vide le coup droit qu'ils font depuis qu'ils ont 4 ans. C'est-à-dire qu'ils reviennent à la technique pour se reconcentrer, pour se remettre dans leur match. Donc la technique, elle est là pour ça. Et c'est aussi ce qu'on enseigne dans ces formations-là. Mais une technique ne veut pas dire une recette. Et moi, ça m'est primordial. J'ai vraiment envie que les gens qui sont dans ces formations-là soient en capacité de pouvoir libérer leur propre style. Hein. Finalement, un revers de tennis, qu'on soit dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, il n'y a pas 36 façons de l'enseigner. On va mettre ses mains d'une certaine façon sur le manche, etc. Et pourtant, même dans le top 10, eh ben, les gens ne font pas le revers de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ont pris la technique et qu'ensuite, leur style à eux s'est imposé. Ben, dans l'art oratoire, je trouve que c'est exactement la même chose. On peut s'appuyer sur des techniques et ensuite, ce que l'on est, il y a des grandes gueules, il y en a des plus timorées. Tout le monde a le droit, tu vois, tout le monde a accès à ça, à la technique et à ce qu'il va en faire après.
Oui, puis c'est la liberté dans le cadre, c'est-à-dire que la technique, c'est un cadre, mais à l'intérieur de ça, il y a le timbre de ma voix, il y a mon vocabulaire, il y a une énergie, il y a les figures de style que je vais mobiliser, il y a mes silences, il y a cette densité de silence. Quels sont les styles auxquels tu es sensible en art oratoire? Est-ce qu'il y a des orateurs, des oratrices qui vraiment t'ont marqué?
Alors les orateurs et les oratrices, moi, qui m'ont marqué, ce ne sont pas forcément des grandes figures connues de façon mondiale ou universelle. Je dirais que ce sont plutôt des gens du quotidien. Tu vois, il y a un prof d'histoire que j'ai eu au collège. Je continue à penser et à me nourrir avec la façon qu'il avait de faire classe, ce type-là. Je pense qu'il y avait une musicalité dans sa voix qui était absolument extraordinaire. Il était capable de marquer, justement, tu parlais des silences incroyables, de jouer avec sa voix. Je pense que sans se rendre compte qu'il jouait avec ça, mais quand même, il l'entendait. Et surtout, c'était quelqu'un qui était animé d'un sens de la générosité et du partage de son savoir, sa passion. Et ça, je trouve que c'est... Moi, c'est ce qui me touche. Quand je sens que c'est un peu trop formaté ou quand je sens un peu trop les coutures, tu vois, des fils ou la volonté absolue, parce que ça sert à ça aussi, hein, la parole, à convaincre, mais des fois aussi à manipuler. Bon, alors quand je sens un peu trop ça a tendance à m'en éloigner. Et je crois que malheureusement, on parlait des politiques ou des grands avocats, on parle d'effet de manche, tu vois. Donc ça peut être très virtuose, ça peut être très très bien fait. Il y a des gens, c'est pas la question d'ailleurs est-ce que je les apprécie ou pas, mais qui ont une technique tout à fait avérée, tu vois, qui est très très balèze. Mais ça me touchera vraiment quand je sens qu'au fond, il y a une générosité derrière, une envie de partager et du temps qui est donné. Parce que finalement, ce temps qu'on va prendre et qu'on va donner dans la parole et dans la communication à l'autre, c'est un cadeau magnifique parce qu'on ne peut pas le reprendre. Le temps que l'on accorde dans sa communication à quelqu'un est un cadeau que l'on ne peut pas reprendre. Je ne peux pas reprendre le temps donné. Donc c'est à ce niveau-là que des orateurs et des oratrices m'ont souvent marqué. Et c'est vrai que ça a été dans les gens qui ont pu me former ou que j'ai pu rencontrer, mais plus proche de moi, ouais, que vraiment des grandes figures, des Obama, des machins, des ceci, cela, quoi. Ouais.
Qu'est-ce qui entretient ta flamme aujourd'hui en matière d'art oratoire, de prise de parole? Quand sur tes temps libres, tu vas dans une maison de la presse ou que tu ouvres ta télé ou la radio, il y a quoi dans tes yeux ou dans tes oreilles, Nicolas, qui t'inspire, qui te plaît?
En fait, comme je te disais tout à l'heure, je suis pas un grand, grand lecteur de bouquins qui vont traiter expressément d'art oratoire, par exemple. Tu vois, là, dernièrement, j'étais sur un bouquin de Frédéric Lenoir sur Spinoza. Bah, là-dedans, évidemment, j'y trouve. En fait, je fais des liens. Donc, dernièrement, je regardais un tableau de Turner, tu vois, et j'y ai trouvé un lien par rapport à ce que j'allais dire dans une conférence un peu plus tard. Donc, c'est vraiment ça, moi, ma façon de me nourrir. Et dans ce qui me plaît ou dans ce qui me donne la flamme, c'est vraiment de me dire, il y a des... Parce que je travaille avec beaucoup d'étudiants aussi. Vraiment, ces étudiants qui arrivent, qui se disent « Non, mais ça, c'est pas pour moi, parce qu'il y a ceux qui sont bons et puis les autres. Et moi, je fais pas partie de ceux qui sont bons. Donc, tant pis, j'ai pas ce talent-là. » Eh bien, de voir qu'avec de la technique et de la transmission et de la pédagogie, on arrive à donner la parole à ces gens-là. Eh bien, alors ça, je trouve ça formidable. Parce que la parole, oui, elle va servir dans le leadership. Je travaille avec des entreprises. Donc, c'est aussi ce qui est demandé à ce moment-là. Mais dans sa vie personnelle, parvenir à dire oui ou parvenir à dire non, ou parvenir à dire bah, je ne sais pas encore. Ce que ça donne, ce pouvoir que ça donne de se sentir mieux et de travailler mieux avec les autres, de mieux vivre avec les autres, ben ouais, c'est vraiment ça qui me... Comme une espèce de maïeutique de la parole, tu vois. Alors ça me plaît beaucoup, ouais.
Il y a beaucoup de clichés autour des arts de la parole. On en a mentionné un certain nombre, le mythe de la répartie, par exemple. Est-ce qu'il y a un cliché qu'on pourrait démonter maintenant, tout de suite, sur notre table à podcast?
Comme je te disais tout à l'heure, là, ce côté de ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est-à-dire ça, je pense que... Alors, si, tiens, je pense à autre chose. Les fameux concours d'éloquence. Ces concours d'éloquence, moi, j'ai un regard très, très, très critique là-dessus. Je t'explique pourquoi. Pour moi, l'éloquence, c'est, bah tiens, emparons-nous. Je crois que tu viens de l'improvisation aussi.
Exactement. Ouais.
Emparons-nous d'un sujet et avec tout ce qu'on est, essayons d'en faire quelque chose. Ça me plaît beaucoup. Tu vois, je trouve que c'est vraiment passionnant. Ça vient solliciter tout un tas de compétences et puis de gérer sa propre peur. Sa peur de ne pas avoir le bon mot, de se rater, etc. Mais le concours d'éloquence, enfin, qu'on nous fait passer pour un concours d'éloquence, moi, ce que je vois dernièrement, ce sont des gens qui ont écrit leur texte, qui l'ont appris par cœur, et qui viennent faire semblant de l'improviser alors que tout est sous contrôle. Et à ce moment-là, moi, qu'on me dise, c'est un jeu d'acteur, c'est pas grave, tu vois. Et c'est chouette aussi de faire de l'acting. Mais qu'on mette ça sous le couvert de l'éloquence alors que c'est tout sauf ça, ça fait partie des petites choses là qui m'agacent un peu sur la prise de parole.
Je suis complètement d'accord avec toi et ça m'évoque aussi le stand-up. Je trouve que le contrat, il n'est pas toujours très clair. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'en fait, les humoristes, c'est spontané. C'est-à-dire que l'anecdote leur vient sur le moment, mais il n'y a rien de plus écrit qu'un stand-up, en fait. Mmh. Ça va de la gestuelle, à ce moment-là, je prends le micro comme ça, est-ce que je mets un tabouret, est-ce que je reste fixé derrière mon micro ? Tout est savamment orchestré. Mmh. Et des fois, le contrat n'est pas toujours clair. Et aujourd'hui, on assiste donc dans le stand-up moins à ce comique de personnages comme à une époque, avec Coluche, plus tard avec Elise Moon, Franck Dubosc, tous ces humoristes-là. On assiste plus, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à un humour d'observation. Je me suis baladé hier dans un magasin, je suis tombé sur le vendeur qui m'a dit... Et je fais une blague avec ça. Mmh. Et des fois, le contrat n'est pas clair sur ce qui est improvisé et ce qui ne l'est pas. Et donc, ça engendre des mythes et parfois peut-être des complexes pour tout un tas de gens. Oh, l'improvisation, c'est ça. Mmh. C'est le parfait. Je sers un plat où il y a entrée, plat, dessert et puis les couverts en argent. Tout est parfait. Rien ne dépasse. Mmh. Ben non. Non. En improvisation théâtrale, je sais de quoi je parle. Dieu sait que j'ai fait des fours. Dieu sait que j'ai fait des fours au départ. Et Dieu sait que j'ai besoin de continuer de faire des fours pour me donner envie de trouver la formule. Mmh. Trouver la formule, le truc qui va faire que là, ça va prendre. Et fort heureusement, il y a des moments d'extase. Il y en a beaucoup aussi. Mais l'improvisation, c'est accepter l'éventualité aussi d'un accident, d'une prise de risque. Il faut prendre son risque. Et, et démystifier un petit peu ce côté improvisation. Je trouve vraiment... Moi, depuis le temps que je fais ce métier, ça doit faire à peu près 3 bonnes années, c'est peut-être dans le top 3 des peurs des gens. J'ai peur du blanc, j'ai peur de ne plus savoir quoi dire, j'ai peur du blackout, quoi. Mmh. Et en fait, mais il existe tout un tas de ressources, pas très compliquées, qui peuvent nous permettre de rebondir. Et on peut en donner une là, c'est par exemple de démarrer sur une anecdote. On peut relier 2/3 des sujets, même alambiqués, même saugrenus, à quelque chose de vécu, ou quelque chose qu'on a vu ou assisté.
Ça, c'est la force du... Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, mais sinon c'est le conte aussi, tout simplement.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire ramener ça à une anecdote personnelle. Alors personnelle, soit parce qu'on l'a vécu soi-même, soit parce qu'on nous l'a raconté. Et de créer comme ça aussi une connexion émotionnelle forte. Je pense que c'est par l'émotion, le mot lui-même émotion, on revient sur la question de mouvement. Hein. C'est ce mouvement-là de l'intérieur. Et je pense que, en tous les cas, c'est souvent les conseils que je donne, notamment sur des présentations, tu vois, avec PowerPoint et compagnie, où les gens, en fait, veulent montrer qu'ils sont sérieux. C'est ça qu'ils veulent montrer. Quitte à ce que ça ennuie tout le monde pendant une demi-heure, alors on va te balancer 70 slides avec des schémas, des choses dans tous les sens que personne ne va lire, que personne ne peut lire. Mais c'est pas grave, on va rester sérieux. Et je leur dis, prenez ce risque-là, dites-vous, tiens, tu sais quoi, on va faire un fichier PDF qu'on enverra aux gens, comme ça ils pourront retrouver tous les détails, tout ce qu'ils veulent faire après. Mais je vais faire de ce moment de présentation une véritable rencontre. C'est-à-dire que, au-delà de mes slides, qu'est-ce que je suis venu leur dire ? C'est quoi ma raison, là, de ma présence ? C'est quoi le message final ? Tu sais, le fameux « so what ?» Pourquoi tu es là, en fait ? Pourquoi on discute, là ? « So what ?» Eh bien, si on peut répondre à cette question-là, on a notre message. Et je trouve que d'entrer sur scène avec son message dans la poche, moi, je dis souvent, concentrez-vous comme ça au dernier moment. Vous êtes venu pour donner un message. Donc, c'est ça la légitimité de votre présence sur scène. Donc, tout le reste est moins grave, en fait. Assurez-vous que ce message-là puisse passer. Et si pour le faire passer, faut y aller avec des éléments émotionnels, on y va avec ça. Parce que l'abstrait ne va pas marquer les gens, quoi.
Oui, puis il y a une vraie crainte de renoncer. De devoir renoncer à paraître intelligent, de devoir renoncer à faire mieux que bien, de devoir renoncer à tout dire. C'est pour ça que je te lance un petit peu tout à l'heure sur le storytelling, le cinéma, les séries. J'adore cette analogie-là, quand on pitch, quand on prend la parole en public, on ne fait qu'une bande-annonce. En fait, je dis souvent qu'il faut être extrêmement humble aussi avec cette ambition-là de prendre la parole en public, parce que le temps joue souvent contre nous. On peut se faire couper la parole. Il y a quelque chose de l'ordre du Snapchat, je trouve, dans la parole, c'est éphémère. C'est éphémère, ça s'envole, ça n'existera plus. Ça n'existait pas hier, ça n'existera plus demain. Donc il y a ce côté, il faut que je garde l'attention. Il faut que j'arrive à garder l'attention, il faut que je puisse donner mon message. Mais voilà, il y a quelque chose de très,
tu vois, là,
très versatile.
Sur le côté éphémère, oui, c'est éphémère dans la forme. Mais encore une fois, si tu as marqué les esprits par une parole. Tu sais, il y a des gens, moi j'en rencontre tous les jours, qui vont dire, tu sais, mon grand-père disait toujours, c'est pas mon grand-père m'a écrit dans une lettre que j'ai conservée avec moi. Donc, tu vois, quand même, cette force de la parole, quand elle est juste, et je pense, pourquoi les gens me disent ça, je me souviens, mon père disait ça, ma grand-mère disait ça, c'est bien parce que c'est relié à l'émotionnel aussi. Il se rappelle de la parole, mais il se rappelle aussi sans doute du moment où ça a été dit, ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement les mots, c'est tout l'habillage qu'il y a. Donc c'est le visuel, c'est l'olfactif.
La musique sous les mots, tu parlais de ton prof d'histoire.
Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, je me rappelle pas de ces cours d'histoire, je sais pas ce qu'il m'a balancé sur la Révolution française. Mais en tous les cas, je le revois et je sais, Alain Martiche, je vais le citer parce que ça me fait plaisir, à quel point il nous a transmis là des choses incroyables.
Et je trouve que c'est une matière, d'ailleurs pour la parenthèse, qui concentre peut-être cette nécessité de mettre de l'émotion, de faire du visuel. S'il y a bien une matière à l'école pour être sur le champ de bataille avec les poilus, pour être au débarquement avec les Américains, pour être avec les résistants, bon, on ne va pas parler que de la guerre, mais toutes ces autres périodes, ben, c'est l'art de l'hypotypose en rhétorique, de générer du visuel par les mots, c'est de mettre de l'émotion, trouver une musique, c'est ce que tu décrivais à travers la combinaison de silence, d'accélération, de ralentissement de débit. C'est l'art d'interpeller tel ou tel élève à travers des questions rhétoriques pour recapter son attention. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais aimé être prof d'histoire, finalement. Et puis ces podcasts qui cartonnent, je sais pas si t'aimes bien, moi j'aime beaucoup Ondelat te raconte. Alors lui, c'est plus des chroniques criminelles ou des fois... Il y a quand même un peu de l'histoire de Jordan Belfort, le loup de Wall Street, il raconte ça en 30 minutes. J'adore ces petits podcasts-là. Il y en a plein. Il y a ceux de Stéphane Bern, de Franck Ferrand. Mais ils arrivent à nous faire vivre des situations.
Je me souviens de cette interview où on demande à Orson Welles ce qu'il préfère entre le cinéma et la radio. Alors moi, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio. Je me suis vraiment nourri avec ça. La nuit, j'écoute la radio.
Et t'écoutes quoi, pardon, d'ailleurs ?
J'écoute beaucoup. Alors, j'écoute beaucoup d'émissions sur France Culture, par exemple, parce qu'on prend le temps. Parce que la nuit, notamment, ils rebalancent des vieux, vieux enregistrements. Et on a l'occasion d'entendre... tu vois, des philosophes, des scientifiques, des artistes.
Il y a une émission en particulier que tu recommanderais ?
Ouais, là, c'est les nuits de France Culture.
D'accord.
Tu vois, donc
d'accord.
Ça peut aller dans plein de domaines. Mais pour revenir à Orson Welles,
oui, pardon.
Il a cette réponse que je trouve absolument magique. On voit le cinéaste que c'est, la radio, on connaît aussi. Et il dit, en fait, je préfère la radio. Et je préfère la radio parce que l'écran y est plus large. Tu vois, c'est je trouve la magie aussi des mots et de ce que l'on peut dire, c'est que si tu amènes ton auditoire, tes spectateurs à entendre ce que tu dis, alors ils peuvent aussi fabriquer du sens et on le co-fabrique. D'ailleurs, c'est assez marrant cette histoire-là parce que en anglais, on dit audience, donc qui ramène à l'audio, celui qui écoute. Le public. Alors que nous, on dit spectateur, spectacles, c'est les lunettes, c'est le voir, tu vois. Donc, c'est assez marrant comme on est peut-être plus visuel dans le spectateur français que dans l'audience anglo-saxon.
C'est génial. Merci pour cette citation. Je ne la connaissais pas et je trouve ça extrêmement parlant. Ça laisse de la place à l'imaginaire, la radio. Je peux me figurer, je peux m'imaginer un visage sur une voix. Je peux faire naître, encore une fois, on y revient toujours, faire naître des images. À mon esprit, elles ne sont pas imposées par le prisme d'un réalisateur, d'un metteur en scène. Donc effectivement, c'est fascinant. Question qui n'a rien à voir, s'il y avait une personnalité que tu pouvais entraîner, coacher à la prise de parole en public, Nicolas, tu choisirais qui ? Du monde des affaires, de la politique, toute idée politique mise dehors, mais en parlant que de technique,
ouais.
Acteur, actrice, bref, tu prendrais qui ?
Vaste choix là-dedans. Je pense quand même que je pourrais pas complètement faire abstraction des idées qui sont véhiculées ou défendues, tu vois.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que, contrairement à l'avocat, je pense que c'est un métier fascinant, tu vois, un pénaliste. Mais je crois qu'à titre personnel, je n'aurais pas cette force ou cette conviction-là de me dire si, je peux aussi défendre simplement par la rhétorique, etc. Donc j'aurais sans doute besoin d'aller coacher quelqu'un, en tous les cas, que j'ai envie d'aider aussi. Et donc, je vais te faire une espèce de réponse un peu à rebours, c'est-à-dire que je pense que la personne que j'aimerais le plus coacher, c'est sans doute pas quelqu'un de déjà connu, parce qu'il a déjà plein d'outils avec lui, mais ce serait sans doute un anonyme qui, pour des raisons tout à fait personnelles, aurait besoin de pouvoir prendre la parole, et peut-être dans un cercle très restreint, familial, amical ou professionnel, savoir parler à son N plus 1. Je pense que c'est vraiment ce genre de personnes-là que j'ai envie de coacher.
Et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, les personnes les moins à l'aise, les plus timides, ça me fait souvent penser à la fable du lièvre et de la tortue. Celui qui va le plus loin en prise de parole en public, qui finit par être le plus à l'aise, c'est pas toujours celui ou celle qu'on croit. Je trouve souvent que les grandes gueules, les populaires de collège et de lycée donnent pas toujours les meilleurs orateurs 10 années plus tard. Par contre, les besogneux, ceux qui ont appris à se taire, à écouter par nécessité ou par survie parfois, parce que la peur du rejet, tout ça, sont des gens qui sont peut-être plus modestes, travailleurs, besogneux, et qui arrivent peut-être finalement le plus loin sur ces sujets-là.
Oui, je pense qu'il y a... Quand j'étais instit, je m'intéressais beaucoup à la pédagogie à effet vicarion. Alors, c'est un terme un peu barbare comme ça, mais pour le simplifier, c'est une pédagogie qui se base beaucoup sur l'imitation, sur l'observation, donc, parce que pour imiter, il faut observer, et sur observer et imiter les gens qui nous plaisent, qui nous donnent envie. Tu vois, on parlait de ce prof d'histoire là. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma façon d'être et de parler, j'ai des éléments qu'il avait, tu vois, que j'ai chopé comme ça. Mais un peu comme un gamin qui veut dunker comme son idole, va le faire, va se regarder les vidéos, va essayer de choper, d'avoir des mimétismes. Or, à l'école, en tous les cas, quand j'y étais encore, tu sais, on mettait même des livres pour pas copier sur le voisin. Et ce faisant, on se prive d'un levier mais extraordinaire qui est, peut-être je vais pas comprendre ce que le prof me dit, mais peut-être que mon pote juste à côté, en copiant sur lui, je vais comprendre finalement ce qu'il y a à comprendre. Et donc je trouve qu'il faut copier, qu'il faut imiter, qu'il faut s'emparer des gens qui nous donnent envie, et que là où je te rejoins complètement, c'est sur ce côté de prendre le temps d'observer là où effectivement la grande gueule, le populaire, est sûr de son fait et ne se remet pas en question, et finalement va devenir mécanique et va s'appauvrir parce qu'il ne sera pas tout le temps en train de regarder, d'aller attraper à droite à gauche, quoi. De butiner, comme on le disait au début.
Bon, je retrouve la même générosité que j'avais aimée dans une des formations que j'avais assistée, Nicolas. Un grand merci, parce que depuis presque une heure maintenant, c'est un florilège de références, de citations, avec, je trouve, derrière, évidemment, toujours des choses très éloquentes, très immédiatement parlantes. C'est absolument génial. Il va être temps de conclure. J'aime bien conclure par cette signature-là. Est-ce qu'il y a une citation, une maxime, un aphorisme, une punchline qui t'accompagne au quotidien?
Alors, je pourrais te dire un message que j'ai sorti à mes étudiants pas plus tard qu'hier. Alors, c'est une citation en anglais, mais on peut la traduire très facilement. Et elle m'accompagne depuis un certain temps. Je pense qu'elle est au cœur de ce qu'on a fait ensemble. Et puis, je veux te remercier aussi de l'invitation, parce que c'est un très bon moment qu'on a partagé, qu'on a passé ensemble. Cette citation, c'est « Never stop learning, because life never stops teaching. » Donc, ne cesse jamais d'apprendre, parce que la vie, elle, ne cessera jamais de te donner des leçons.
Comment enchaîner là-dessus? C'est magnifique, ça méritait sa bonne seconde et demie de silence derrière. Un grand merci, Nicolas. Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les semaines à venir? Alors, on enregistre, on est actuellement fin novembre.
Ouais.
L'épisode sortira ces prochains mois. D'ici quelques mois, quelles seront tes actualités en 2024? Pêle-mêle, tu choisis ce que tu veux.
Les actualités, je vais me remettre aussi à l'écriture. Il y a un petit moment que j'ai pas écrit véritablement. Donc là, il y a un grand projet là-dessus. Il y a un projet aussi de podcast, en tous les cas, sur quelque chose qui s'appellerait « Lu par l'auteur », c'est-à-dire des textes, mais pas par des écrivains professionnels. Ça peut être un gamin de 8 ans, ça peut être une grand-mère qui écrit une recette de cuisine, et je veux les enregistrer et mettre ça pêle-mêle, qu'on ait des textes et des paroles comme ça, lus par l'auteur. Voilà, ça m'intéresse. Donc on va travailler autour de ces questions-là.
Génial. Un grand merci, Nicolas.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt.
Ça marche. Salut.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches, je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr